Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission Grain de sable. Aujourd'hui, nous recevons l'Observatoire international des prisons, de son petit nom l'OIP, et un de ses salariés.
C'est ça, bonsoir.
C'est ça, bonsoir Hamid, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu pour commencer ce que c'est l'Observatoire international des prisons et quelle est sa genèse, d'où ça vient?
Alors, donc l'OIP a été créé à la base par un Lyonnais, par Bernard Bols, en 1990 à Lyon, et avait une vision un petit peu internationale de la chose, et pour dénoncer toutes les atteintes aux droits des détenus en France et de par le monde. Ensuite, en 96, s'est créée une section française à Paris, et pour diverses raisons, le secrétariat international a dû fermer en 99. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'OIP en France, on parle de l'OIP section française, qui est basée à Paris, dont le siège est basé à Paris. Voilà. Et à Lyon, maintenant, il y a une coordination régionale qui a ouvert en 2006 et qui s'occupe de toutes les prisons de la direction interrégionale de Lyon et de Marseille.
Ça fait sacrément du boulot, ça, à Lyon plus Marseille.
Ça fait pas mal de boulot, oui.
D'accord. Bon, ben c'est bien. Ça fait aussi quelque chose de un pouvoir d'action assez important et de comparaison aussi importante, quoi.
Exactement.
Alors, quels sont les projets et les actions concrètes de l'OIP?
Concrètement, nous, en tout cas, la coordination de Lyon, on est en lien avec les personnes détenues et les familles de personnes détenues ou les proches par courrier ou par téléphone. Donc, ils nous sollicitent pour les problèmes qu'ils rencontrent en détention, les atteintes à leurs droits, pour avoir des conseils aussi juridiques pour tout ce qui est accès aux droits. Et nous, ensuite, on va leur répondre, soit en les conseillant, soit s'ils dénoncent une situation, on va enquêter sur les faits qu'ils allèguent, et de temps en temps, on peut être amené à communiquer sur ces atteintes.
Et donc, vous avez quel statut? Parce que vous êtes saisi de cette question quand tu disais que vous vous occupez des prisons de Lyon. Est-ce que vous avez un statut institutionnel qui vous permet d'entrer en contact avec ces détenus, ou vous le faites de manière...
Non, on le fait de manière totalement indépendante. On est une association loi 1901, standard, classique, qui est indépendante des autorités publiques. Donc on n'a pas de statut particulier. Certains nous prennent pour une institution parce qu'on a le nom d'observatoire. Mais en fait, non, on est juste une simple association.
Et vous rentrez dans les prisons ou vous rentrez pas dans les prisons?
Non, on rentre pas dans les prisons. On juge que c'est pas nécessaire de le faire. Et on préfère rester en contact, du coup, par courrier ou par téléphone avec les détenus.
Parce qu'il y a d'autres associations comme le Génépi qui, elles, rentrent en fait à l'intérieur des prisons, mais qui n'ont pas forcément du coup le même positionnement par rapport à l'administration pénitentiaire que peut avoir l'OIP.
Oui, parce qu'ensuite, la plupart des associations qui interviennent signent des partenariats avec l'administration pénitentiaire. Le Génépi, en l'occurrence, ils interviennent en détention pour notamment pour donner pour faire des activités socio-éducatives, par exemple, avec les personnes détenues. Ils ont aussi toute une politique de sensibilisation sur la question carcérale à l'extérieur de la prison. Mais c'est vrai que le fait d'être lié avec l'administration pénitentiaire peut parfois poser des problèmes sur les dénonciations, par exemple, de certaines situations. Donc c'est pour ça que nous, on veut rester en retrait de ça, pour pouvoir rester autonome et indépendant.
Et vous arrivez malgré tout à avoir facilement des informations sur ce qui se passe en prison, donc de par les détenus, et seulement par eux, ou vous avez d'autres personnes qui vous donnent des informations?
Alors, c'est essentiellement de la part des détenus. Les familles nous contactent aussi régulièrement par téléphone à l'OIP. Et ensuite, de temps en temps, on a des intervenants ou des personnes qui interviennent en détention qui nous contactent, généralement de manière anonyme, ou quand c'est pas de manière anonyme, on fait en sorte de garder leur anonymat pour pas qu'ils aient de problèmes par la suite.
Et donc ces informations que vous collectez, là, vous, avec le terme observatoire, est-ce que vous faites des bilans réguliers?
Alors, c'est une grande question à l'OIP. Il y a des rapports qui sont sortis. Donc le dernier rapport date de 2011, c'est le rapport sur les conditions de détention en France. On a pour projet de, parce que en fait c'est un très gros travail de faire ce genre de rapport. Donc là on est en train de réfléchir sur des rapports thématiques, donc qui vont traiter juste d'une thématique particulière, par exemple la sexualité, le travail, les violences carcérales, etc. Et de faire de petits rapports assez brefs qui nous prennent moins de temps et moins de travail, parce qu'on n'est pas très nombreux, on n'est que 12 salariés appuyés par une équipe de bénévoles, et ça permettrait de sortir des rapports plus réguliers et plus d'actualité.
Vas-y Céline. Si je peux juste compléter, c'est vrai qu'en plus des rapports, dès lors qu'on reçoit des informations à l'OIP et que ces informations, donc, comme l'a expliqué Hamid, en fait, il y a tout un travail de vérification d'informations, quelle que soit la source qui nous transmet une information, que la personne soit détenue, que ce soit un intervenant ou que ce soit un personnel pénitentiaire, le travail de l'observatoire, c'est un peu un travail de journalisme, en fait, de vérification de l'information. Et dès lors que nous sommes certains que l'information, en fait, nous montre que nous sommes en présence d'un dysfonctionnement, d'un manquement au droit à une personne détenue, dans ces cas-là, en fait, on essaie de réagir immédiatement par le biais d'un communiqué de presse. Donc, l'arme de l'OIP, c'est aussi le communiqué, c'est-à-dire d'avoir une espèce de réactivité immédiate pour faire cesser un dysfonctionnement en cours, ou bien pour essayer du moins que ce dysfonctionnement ne se reproduise plus dans l'avenir. Donc, il y a aussi, enfin voilà, on a aussi, en plus de ce travail de collecte d'informations qui peut donner lieu à des rapports, etc., l'arme du communiqué qui nous permet d'intervenir sur des situations en temps réel, entre guillemets.
Et ça fonctionne, ces communiqués, quelles sont les réactions en général?
Tu veux répondre?
Mais je dirais que le but du communiqué, effectivement, c'est d'exercer une pression. Et je pense qu'effectivement, le fait de ne pas être en prison, mais d'arriver à dénoncer des choses qui se passent derrière les murs, ça exerce une pression certaine, effectivement, sur l'administration pénitentiaire. Et puis, les communiqués, généralement, enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est que plus c'est repris dans les médias, par les journaux, etc., plus ça donne une mauvaise presse, en fait, à l'administration pénitentiaire. Et effectivement, je pense que ça exerce quand même une certaine pression.
Et par exemple, ces derniers temps, quel dysfonctionnement vous avez révélé par communiqué? Si vous pouvez nous donner quelques exemples.
Le plus important, on va dire, et le plus récent, c'est à Fresnes. Donc ça concerne pas la région de Lyon. Il n'y a pas eu beaucoup de communiqués récemment sur Lyon. Mais au parloir de Fresnes, en fait, il y a une enquête qui a été faite par la coordination d'Île-de-France. Et ils ont constaté, en rentrant en contact avec les familles de personnes détenues, que les parloirs étaient très vétustes, très sales. Il y avait les conditions sanitaires étaient déplorables. Qu'il y avait la présence aussi de murets de séparation entre les personnes détenues et les familles, et que ces murets ne pouvaient pas être franchis, alors que c'est une règle qui ne s'applique plus depuis le début des années 80. Donc c'est totalement contraire à la loi, et les personnes qui franchissaient ces murets, qui c'était souvent des enfants qui voulaient retrouver leur papa par exemple, étaient sanctionnées et pouvaient se voir suspendre leur permis de visite. Donc il y a une enquête qui a été faite là-dessus, un article suivi d'un communiqué de presse qui a été envoyé un petit peu partout, qui a été repris pas mal par les médias, et ça a été suivi d'une condamnation par le tribunal administratif de Melun, qui est toute récente là, où on a gagné sur les murets. Donc du coup, la prison de Fresnes doit, sous 4 mois, détruire ces murets pour que les personnes puissent, je sais pas, les enfants puissent s'agenouiller sur les genoux de leurs parents, par exemple, tout simplement. Alors que c'était interdit à l'époque.
Et en même temps, comment ça se fait que cette information, elle a mis aussi longtemps, finalement, à sortir et puis à arriver, puisque c'est des pratiques, normalement, qui sont prohibées depuis longtemps?
Parce que parfois, soit les personnes détenues, soit les familles ne pensent pas à nous parler de ça. Il y a plein de petits dysfonctionnements qui ne leur paraissent pas si importants que ça à leurs yeux, et on s'en rend compte bien trop tard.
Mais est-ce qu'ils connaissent au moins leurs droits? Et est-ce que vous avez un rôle aussi dans le...
Ben, ils ne connaissent pas forcément leurs droits, justement. Par exemple, en détention, il n'est pas évident d'accéder au règlement intérieur de la prison. Souvent, quand ils rentrent, on leur donne les grandes lignes du règlement intérieur. Et ensuite, nous, oui, on a un rôle d'information. Donc j'ai oublié d'en parler, comme c'est assez important. On a écrit le guide, enfin, l'OIP a édité le guide du prisonnier, qui est un guide assez complet, qui retrace un petit peu le parcours du détenu de l'entrée à la sortie, par un jeu de questions-réponses. Et qui fait à peu près 700 pages. Et donc pour les détenus qui nous écoutent, ce guide est disponible gratuitement à tous les détenus. Il suffit d'écrire à l'OIP à Paris, donc au 7 bis rue Riquet, dans le 19e arrondissement à Paris, 75-0019, et de demander d'avoir un guide du prisonnier. Et on peut le diffuser gratuitement.
Il n'est pas censé être dans les bibliothèques, dans les prisons, ce guide. Alors est-ce qu'il y est, est-ce qu'il reste? Disparaît.
Alors il y est, il peut disparaître. S'il disparaît, que c'est un détenu qui l'a pris, c'est bien. Certains détenus, des fois, nous informent. Par exemple, là, on a reçu un courrier de la MAF de Corba où on nous indiquait qu'il manquait des guides à la MAF.
Donc la MAF, c'est...
Pardon, la maison d'arrêt pour femmes. C'est le jargon en prison. Donc on en a renvoyé 4 à la bibliothèque de la maison d'arrêt pour femmes. Mais ça pose aussi la question de l'accès à la bibliothèque, de l'accès aux activités, qui n'est pas évident. Parce que il y a une surpopulation en prison, et du coup pour pouvoir accéder à toutes les activités, notamment la bibliothèque, c'est pas forcément évident, c'est pas tous les jours, c'est souvent restreint en termes de temps, et voilà.
Et donc là on parlait du droit des détenus, mais j'imagine que les familles ont aussi des droits, puisqu'elles peuvent aller visiter leurs proches. Et est-ce qu'elles sont au courant aussi des droits qu'elles peuvent avoir?
Souvent pas. Je pense que c'est pas... Ensuite, certaines familles avec qui j'étais en contact sont allées elles-mêmes rechercher sur Internet. Alors soit sur le... Parce que c'est comme ça souvent qu'elles se retrouvent à contacter l'OIP. Donc sur le site Internet de l'OIP, on a toute une partie... on a repris une partie du guide du prisonnier, en fait, avec les questions les plus récurrentes. Ou sinon, elles vont sur le site du ministère de la Justice. Mais c'est assez rare. Souvent, les familles ne sont pas au courant de leurs droits. Et c'est dommage.
Il n'y a pas des associations de familles de détenus qui existent? Alors peut-être pas partout, mais qui peuvent aussi être en lien et donner des informations.
Si, alors il y a des accueils familles qui sont souvent gérés par des associations. Alors ça dépend ensuite entre les établissements, entre les prisons publiques et les établissements à gestion déléguée, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui interviennent aussi dans la gestion de la détention. Donc ces accueils donc sont soit gérés par des associations seules, soit c'est un accueil mixte qui est géré par une entreprise et par l'association. Et c'est vrai que les familles se retournent souvent vers ces accueils familles pour obtenir des informations sur leurs droits ou quand elles sont confrontées à un problème. Mais on constate par exemple à Marseille, tout récemment, il y a l'accueil famille, donc le centre d'accueil des Baumettes de Marseille, qui a dû fermer faute de subventions, parce que les subventions pour 2015 ont diminué drastiquement, et ils ont dû licencier en juillet un premier salarié, licencier en octobre leur deuxième salarié, et c'est une association qui était assez professionnelle. Elle pourrait fonctionner qu'avec des bénévoles, mais il fallait des personnes compétentes, donc c'était des travailleurs sociaux qui travaillaient dans cette association. Et à la fin, ils pouvaient plus payer ces deux salariés, plus payer le loyer de leur local, et ont dû mettre la clé sous la porte. Donc les familles se retrouvent, il y a une autre association qui intervient, mais un peu moins souvent, et les familles n'ont plus accès à cette base d'informations, puis à cet accueil aussi, parce que souvent les familles viennent de loin, parcourent, parce que les personnes détenues peuvent être mises en détention dans des endroits assez éloignés, ça peut être à une centaine de kilomètres, à 500 kilomètres. Donc il y a déjà le coût pour aller voir la personne qui est détenue, plus l'hébergement quand c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et celles qui viennent directement le matin, par peur de rater leur parloir, parce que si on est en retard de quelques secondes, on peut se voir retirer son parloir. Donc arrivent très tôt, généralement. Et les accueils familles sont aussi là pour... Mais justement, comme leur nom l'indique, pour les accueillir, proposer du thé, du café, il peut y avoir des tables de jeux pour les enfants. Et tout ça a disparu à Marseille, malheureusement.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu des problèmes de... Du coup, on donne pas... Enfin, déjà, il y a des problèmes de subvention. Donc, bon, pour tout ce qui concerne la prison, on va pas forcément... Enfin, on va tout de suite un peu trancher dans le vif et puis moins subventionner ce type d'association, j'imagine.
C'est ça.
Et tu as cité donc l'exemple des murets, donc un endroit, enfin, et puis aussi un problème de vétusté. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi de dysfonctionnement un peu sur d'autres volets sur...
Oui, il y a pas mal de dysfonctionnements en prison. La liste peut être longue, mais déjà il y a de la surpopulation. Ça, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Les détenus devraient pouvoir bénéficier depuis la fin du 19e siècle d'une cellule individuelle, et ce n'est pas le cas. Et c'est repoussé. Là, ça a été, le 24 novembre, en fait, c'était la date de fin du dernier moratoire, et qui a été repoussé jusqu'en 2017. Donc ça, c'est sur la surpopulation. Il y a un problème d'accès aux soins. Par exemple, dans la majorité des prisons, il y a un manque de personnel soignant, notamment la nuit. Donc les personnes détenues qui rencontrent des problèmes de santé pendant la nuit, et ça arrive, doivent être extraits en urgence. S'il y a une urgence, donc ça nécessite de mobiliser une équipe de la gendarmerie, ça nécessite des moyens, alors qu'en ayant des médecins de garde la nuit au sein de la prison, ça pourrait régler plus facilement les problèmes. Sur les soins spécialisés aussi, il y a pas mal de manque, par exemple pour tous les soins dentaires, les dentistes, les ophtalmos, les dermatos, la kinésithérapie. On a pas mal de détenus qui nous ont écrit parce qu'ils ont des problèmes de rééducation, qui doivent suivre des séances de rééducation et qui peuvent plus le faire en détention. Les autres problèmes en vrac, le droit du travail, il y a pas de droit du travail en prison. Donc les personnes détenues qui travaillent travaillent aux ateliers, sont payées à la pièce, ce qui est interdit à l'extérieur des prisons, soit font des travaux, donc ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire qui vont faire le ménage, aider pour le linge, etc. Donc sur le quotidien de la prison, mais leur salaire ça représente en général un tiers du SMIC, ça peut voire en dessous, ça peut aller de 70, 80, un peu moins de 100 euros de l'heure à maximum 200, 300 euros de l'heure. Et ceux qui travaillent aux ateliers, à la pièce, peuvent des fois gagner un peu plus, mais c'est rare. Et ensuite, quand ils sont, par exemple, donc on parle pas de licenciement, comme ce n'est pas du droit de travail, on parle de classement quand on trouve un travail et de déclassement quand on perd son travail. Donc quand les personnes sont déclassées, ils ont très peu de voies de recours pour pouvoir se défendre.
Et quand on travaille dans un atelier, on travaille pour une entreprise privée qui est extérieure à la prison ou...
Exactement, oui.
Donc elle a le droit de ne pas respecter le droit du travail.
C'est ça, et c'est un problème. C'est le week-end dernier, j'ai appris qu'à la prison de Saint-Maur, il y a un programme qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années. Par un monsieur que j'ai rencontré donc le week-end dernier, et il nous expliquait qu'il a réussi à faire appliquer le droit du travail pour son atelier, et pour donc en fait c'est tout un processus de formation puis travail suite à la formation, et avec une rencontre aussi de tous les intervenants en lien avec leur travail, donc une mise en relation pour que quand ils sortent ils puissent trouver plus facilement du travail dans le domaine dans lequel ils ont été formés.
C'est fréquent qu'on ait droit à des formations en prison ou pas?
Non, alors c'est une autre problématique aussi. Donc c'est pas, il y a beaucoup de listes d'attente. Souvent c'est donné au mérite, c'est-à-dire que quand on a un mauvais comportement, on va moins facilement avoir accès à une formation. Et le problème des formations, c'est qu'elles sont multiples. Il y a beaucoup de détenus qui sont condamnés à de longues peines et qui vont passer leurs années à faire un CAP en boulangerie, puis ensuite un CAP en maçonnerie, puis ensuite un diplôme en secrétariat, et puis un autre diplôme en je ne sais quoi. Et au final, ça apporte pas grand-chose à part s'occuper pendant la détention, alors que... Voilà, enfin c'est...
Et pour d'autres qui ont des peines plus courtes, si on pense aussi que la prison, c'est aussi être en insertion après, c'est quand même important, enfin, de pouvoir
mais les personnes qui ont des
sortir peines... avec quelque chose. Quoi.
Ouais, mais les personnes qui ont des peines plus courtes, malheureusement, n'ont souvent pas le temps d'avoir accès à toutes ces activités et se retrouvent, ce qu'on appelle ça les sorties sèches, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le temps de rencontrer ou de voir assez souvent leurs conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, donc ils sont un peu les travailleurs sociaux, on les appelait travailleurs sociaux il y a une vingtaine d'années en prison, qui doivent les accompagner pour leur réinsertion à leur sortie, leur proposer une formation également, etc. Et les personnes qui sont condamnées à de courtes peines se retrouvent souvent à sortir sans rien, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de rencontrer ces personnes-là. Et à savoir que ces conseillers sont débordés. Il y a certains conseillers qui suivent une centaine de détenus. Et ils peuvent pas, en fait, voir tout le monde. Donc du coup, ils priorisent et ils vont prioriser sur les longues peines.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer quels sont les différents types de prisons ? Parce que si tu parlais de la maison d'arrêt des femmes tout à l'heure, il y a aussi des centres pénitentiaires. Alors quelles sont les différences entre ces types d'établissements ?
Alors il y a donc les maisons d'arrêt sont censées être destinées aux personnes prévenues non condamnées ou pour donc les personnes qui sont en attente d'un jugement ou pour les personnes en courte peine qui ont moins de 2 ans de prison à faire. Sauf que ce n'est pas le cas. Enfin, en raison de la surpopulation, il y a pas mal de personnes condamnées qui stagnent dans les maisons d'arrêt. Et ce sont quand on parle de surpopulation, c'est majoritairement dans les maisons d'arrêt. Ensuite, il y a les établissements pour peine, donc notamment les centres de détention. Donc les centres de détention sont pour les personnes condamnées. Le régime est un peu plus souple parce que les personnes peuvent bénéficier plus facilement d'une cellule individuelle, contrairement aux maisons d'arrêt, et on trouve moins de surpopulation dans ces établissements. Et ensuite, il y a les maisons centrales, donc qui sont des prisons ultra sécuritaires. Il y en a 6 en France en tout pour les personnes condamnées à de très longues peines et les personnes jugées, je mets des guillemets entre guillemets, dangereuses par l'administration pénitentiaire.
Bon, on reviendra sur tous ces points-là après une petite pause musicale.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu 102.2 dans l'émission Le Grain de Sable. On reçoit l'Observatoire international des prisons. Alors déjà, on va tout de suite corriger une grosse boulette qu'on a fait tout à l'heure, en fait, et que personne n'a relevé sur le moment. Donc sur les, quand on parlait des gens qui travaillaient en prison.
Voilà, donc c'était pas du tout un 70 € ou 300 € de l'heure, mais par mois.
Oui.
Voilà.
Là, on comprend.
Donc ce qui est dérisoire.
Et en restant toujours dans les chiffres, alors même si on a bien compris que vous n'étiez pas un observatoire statistique, mais ce serait tout aussi bien quand même de revenir sur des chiffres, parce qu'on comprend bien quand même qu'il y a plutôt de la courbe des délits et de la délinquance qui, depuis quand même quelques dizaines d'années, baisse, et que celle des prisonniers a plutôt tendance à la croiser en montant. Alors pourquoi ? Et est-ce qu'on a un peu des chiffres pour étayer tout ça ?
Oui, bah en fait on a atteint des pics de surpopulation carcérale tout au long de l'année. On a battu des records, en fait, on n'a pas arrêté de battre des records en 2014. Là, les derniers chiffres datent du 1er décembre. Il y a 67 000 détenus en France pour à peu près 58 000 places. Et ensuite, pourquoi ? Mais parce qu'il y a une politique répressive depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, et notamment sous l'ère Sarkozy. Donc, à partir de 2005, quand il était ministre de l'Intérieur, jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, il y a eu un renforcement des peines. Enfin, un allongement de la durée des peines qu'on a constaté, et aussi une politique d'incarcération qui était beaucoup plus forte, et notamment qui était marquée par l'arrivée des peines planchers en 2007. Donc les peines planchers sont, pour résumer, quand on récidive, c'est-à-dire que quand on commet un délit ou un crime et qu'on va récidiver, on va se retrouver automatiquement avec une peine de prison à faire au moment de la récidive. C'est-à-dire que le juge n'aura souvent pas d'autre choix que de prononcer une peine de prison ferme. Donc ça a été supprimé récemment avec la loi Taubira. Mais il y a eu énormément de mesures. Il y a eu, je crois, entre 2005 et 2011, 18 lois pénales qui sont sorties, et toutes aussi répressives les unes que les autres.
Et est-ce qu'il y a des points de comparaison avec d'autres pays européens ? Parce que est-ce que la France, c'est une exception, ou on est sur des systèmes de surpopulation dans d'autres pays européens ?
Oui, alors on constate, j'ai pas de données précises sur les autres pays européens, mais on n'est pas les seuls. On est très mal classé au niveau de l'Europe. Ensuite, sur le fonctionnement de la prison, on constate que plus on monte au nord, dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire dans les pays scandinaves ou au Danemark, plus le système est souple, plus on propose d'alternatives, les détenus vont pouvoir bénéficier de libération conditionnelle ou d'aménagement de peine plus facilement. Et je prends par exemple l'exemple de la Norvège, où la peine maximale en Norvège est de 21 ans, alors qu'en France, il y a toujours la peine de perpétuité qui existe, et la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé le fait qu'on puisse condamner une personne à la perpétuité réelle en France tout récemment, ce qui est totalement hallucinant.
Et est-ce qu'on est dans une tendance à construire des prisons ? Alors, à savoir si c'est pour diminuer la surpopulation ou pour pouvoir continuer à emprisonner de plus en plus de personnes ? Est-ce que...
Oui, alors sous Sarkozy, ils avaient projeté de construire pas mal de prisons. J'ai pas non plus les chiffres en tête. Ces chiffres ont été revus à la baisse par le gouvernement actuel, mais il y a toujours des projets de construction de prisons. Et le problème de ces prisons nouvelles, c'est qu'elles sont souvent totalement excentrées, souvent en pleine campagne, donc loin des familles. Donc pour accéder à ces prisons, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas forcément évident pour ces personnes. Et on constate de plus en plus de déshumanisation dans ces nouvelles prisons, et notamment dans les nouvelles prisons sécuritaires. Je prends l'exemple de la prison d'Alençon, donc de Condé-sur-Sarthe, dans le nord de la France, qui a ouvert en mai 2013, je crois. Et depuis son ouverture, il y a énormément d'incidents, parce que cette prison a été conçue pour que les personnes détenues croisent le moins de personnes possible pendant leur déplacement, soient confinées dans leur cellule. Alors ensuite, quand on voit les images de François qui ont filmé la prison vide, ça paraît tout beau, tout neuf, les cellules sont... Il n'y a pas de vétusté, en fait, dans ces prisons, parce qu'elles sont neuves, mais il y a beaucoup de déshumanisation. Et on l'a constaté à Lyon, notamment au moment du transfert de la fermeture de la prison de PRH et l'ouverture de la prison de Corba. Et il y a eu beaucoup de retours à l'OIP de la part des détenus et même des intervenants ou du personnel sur cette déshumanisation des prisons nouvelles, des prisons froides, du coup.
Parce qu'au final, les détenus sont plus en contact avec les surveillants pénitentiaires. Ils sont plutôt isolés, puisque ça marche par vidéosurveillance.
Oui, ça marche avec des boutons, par vidéosurveillance, avec des bornes. Et ils sont de moins en moins en contact. Ouais. Et ouais. Certaines prisons sont conçues, comme j'expliquais pour à Condé-sur-Sarthe, pour croiser le moins de personnes possible. Enfin, les couloirs sont faits de sorte que l'ouverture, la fermeture des portes, etc. Eux disent que c'est pour éviter les débordements, pour éviter les mutineries, pour éviter tout ce genre de choses, les évasions.
C'est des choses qui, là non plus, vont pas faciliter la sortie.
Ben non, parce que déjà qu'enfermer une personne, ça la désocialise totalement. Il y a une perte de repères aussi, une perte de repères temporels, une perte de repères par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de la prison. Et le fait de les isoler des autres personnes détenues, ça aggrave la situation, effectivement.
Et tout à l'heure, justement, tu nous parlais des établissements qui accueillaient des détenus, entre guillemets, dangereux. Ce type de détenus ont un régime particulier par rapport aux autres détenus ?
Oui, alors certains détenus ont un régime, parce qu'il y a plusieurs... ils peuvent être désignés comme dangereux tout simplement par l'administration pénitentiaire, ou sinon ils peuvent avoir un régime de DPS, c'est-à-dire des détenus particulièrement signalés, qui est très strict.
Et ça, c'est publié au JO, parce que j'entendais Taubira ce matin sur France Inter, qui disait qu'il y avait des listes de détenus en fait, qui étaient publiées au JO et que ça avait certaines conséquences. Alors je ne sais pas si... toi, tu pourrais préciser un peu ça ?
Je ne sais pas, mais ça me paraît assez étonnant, parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés à connaître le nombre de DPS en France, et on l'a su tout récemment. C'était suite à une question au gouvernement d'un parlementaire, et le gouvernement a donné le nombre de DPS en 2013. Donc, je ne sais pas.
Ah, mais je trouvais ça curieux aussi.
Mais ensuite, voilà, ces personnes-là sont... peuvent être soumises, alors en fonction de ce qu'on leur applique, mais peuvent être soumises à des fouilles intégrales, c'est-à-dire des fouilles à nu systématiques à chaque fois qu'ils vont en parloir, peuvent être soumises à des réveils nocturnes pendant la nuit, donc c'est-à-dire que les surveillants, en faisant leur ronde, vont allumer donc les rondes peuvent être toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, vont allumer la lumière de la cellule, vont demander aux détenus de bouger, donc de le réveiller et d'éteindre, donc c'est totalement insoutenable. Certaines cellules peuvent être placées en face des miradors, donc voilà, enfin c'est parmi les innombrables exemples de...
Mais réveiller un détenu la nuit, c'est dangereux ou pas d'ailleurs, pour quelle raison, enfin je vois pas en quoi ça... maîtrise sa dangerosité, entre guillemets.
C'est pour vérifier qu'il est tout le temps vivant.
Ouais, ils le font pour les personnes qui sont suicidaires ou qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Pour les DPS, c'est une très bonne question. À quoi ça sert, à part l'emmerder, je ne sais pas. Mais nous, on suit le cas à Paris d'un DPS qui n'était pas suicidaire et qui subissait des réveils nocturnes.
Et ils sont encore plus isolés que les autres détenus, puisqu'ils sont seuls en cellule, est-ce qu'ils ils sont seuls en cours de promenade aussi? Bonne question.
Bonne question.
Ouais. ça me fait penser en fait aux détenus qui sont placés en quartier disciplinaire et qui du coup se retrouvent isolés seuls et qui sont en promenade seuls et qui peuvent rester un certain nombre de jours placés dans ce type de conditions.
Les DPS, je sais pas, je pense pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, je ne pense pas. Mais effectivement, au quartier disciplinaire, il y a des cours de promenade où les personnes se retrouvent seules. Et souvent, ces cours de promenade, ce ne sont pas de véritables cours de promenade. Il y a pas mal de prisons où les cours de promenade des quartiers disciplinaires, c'est une salle avec une espèce de trou en guise de fenêtre pour faire entrer de l'air libre. Et encore.
Et on parlait de l'isolement, mais on viendra peut-être tout à l'heure sur, suite aux événements de Charlie, sur la volonté d'isoler certaines catégories en fait, de détenus. Est-ce que d'autres détenus en fait, sont isolés par rapport à ce qu'ils ont commis en fait, comme infraction dans les prisons, ou ça c'est une légende urbaine ?
Non, alors il peut y avoir des... Donc on parle d'isolement, de cellules d'isolement.
Ou de gens qui sont placés, qui peuvent être protégés.
Oui, bah, donc voilà, je pensais aux détenus par exemple qui ont été condamnés pour mœurs, donc pour pour viol, pour violence sexuelle ou ce genre de choses, pour éviter de se faire tabasser par les autres détenus ou d'avoir des problèmes, dans certaines prisons, il y a des quartiers spécifiques ou des étages ou des ailes qui sont spécifiques à ces personnes. Voilà. Et ensuite, pour les placements à l'isolement, c'est soit ça va être infligé comme sanction, de temps en temps, c'est utilisé comme protection pour... là, j'ai le cas de deux détenus, par exemple, qui m'écrivent, qui sont placés à l'isolement parce que ils peuvent subir des violences de la part d'autres détenus. Mais il faut savoir que quand on est placé à l'isolement, on a une perte de toutes les activités. Donc, c'est-à-dire que si cette personne travaillait, si cette personne assistait à une formation, elle ne pourra plus y aller. Et voilà, les conséquences peuvent être assez lourdes ensuite. Et
ils ont moins de parloirs aussi ou pas ?
À l'isolement, non, mais au quartier disciplinaire, ouais. Ils ont un parloir par semaine.
D'accord.
Si je ne me trompe pas.
Donc, il y a des détenus qui demandent eux-mêmes à être placés en isolement ou en quartier disciplinaire, au final, parce qu'ils sont victimes de violences de la part d'autres détenus. Ça peut arriver.
Soit on leur impose, ouais. Parce que là, le cas des deux personnes qui m'ont écrit, c'est parce qu'ils ne souhaitent pas, parce qu'ils ont perdu leur travail et leur activité, ils peuvent le demander également, par peur de représailles d'autres détenus. Ça arrive aussi.
Et donc, si on revient sur l'isolement ou placer les gens en fait dans certains quartiers particuliers, qu'est-ce que pense en fait l'OIP de la proposition de certains partis politiques de mettre entre eux certains détenus qui sont considérés comme des islamistes radicaux ?
Ben, c'est une proposition du Parti Socialiste, enfin du gouvernement en tout cas, pas du Parti Socialiste mais du gouvernement, notamment de Manuel Valls. Alors en fait, il y a une expérimentation en ce moment à la prison de Fresnes où ils ont placé une vingtaine de détenus dits islamistes radicaux entre eux. Je pense que c'est une très mauvaise idée parce que ça, c'est pas du tout ça qui va arranger le problème. S'il y a une volonté, par exemple, du gouvernement de déradicalisation, je pense que ça va juste la renforcer dans leurs convictions. Et ça ne marchera pas. Et là, ils veulent étendre l'expérience parce que c'est quelque chose qui a débuté à l'automne dernier à Fresnes. Ils veulent l'étendre. Alors, aux dernières nouvelles, ils ont dit dans deux nouveaux établissements pénitentiaires. Et là, j'ai cru entendre Manuel Valls parler de quatre nouveaux établissements pénitentiaires. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, sachant que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'est dite très très réservée sur cette expérience à Fresnes. Parce qu'on n'a pas assez de recul, donc on peut pas du tout savoir ce que ça peut donner. Mais moi je pense, et l'OIP pense également, que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Parce que ces personnes, en fait, quand on rentre pour rester sur le sujet, du coup, mais on parle de radicalisation religieuse, mais on peut constater pas mal de radicalisation en prison sur d'autres thématiques. Je sais pas, il y a des détenus qui peuvent être amenés à s'automutiler, par exemple. C'est une forme de radicalisation. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que quand une personne n'a pas accès à des activités, par exemple, se retrouve seule, totalement dépourvue et en situation de faiblesse aussi, il peut être amené à se pencher vers la religion. Il y a pas mal de détenus aussi qui vont assister, par exemple, aux offices religieux parce qu'ils s'ennuient, parce que c'est un moyen pour eux de sortir de leur cellule. Et ensuite, dans les prisons, il y a des aumôniers, par exemple, musulmans qui interviennent, des imams. Sauf qu'il n'y en a pas assez. Il y en a beaucoup, beaucoup moins que les aumôniers catholiques, alors qu'on sait que la population musulmane en prison est assez forte. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais plus représentatifs que les autres religions. Et il y a beaucoup moins d'aumôniers musulmans. Donc il y a certaines personnes qui vont s'autoproclamer aumôniers ou s'autoproclamer imams. Et du coup, d'autres groupes de personnes vont les suivre et ça va... Et voilà. Et ils vont être entraînés dans ce phénomène de radicalisation.
Et puis en plus, il faut placer le curseur. Enfin, je veux dire, à partir de quand on va considérer que telle ou telle personne est radicale et pas une autre ? Enfin, c'est aussi des gros problèmes en fait de rupture d'égalité et d'interprétation aussi des pratiques religieuses. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Thank you.
Oui, toujours sur le grain de sable avec nos invités de l'Observatoire international des prisons. Donc on a beaucoup parlé au début de au cours de l'émission de la surpopulation, voire de construction de nouvelles prisons, mais est-ce qu'il y a également des alternatives, justement, ne pas emprisonner, passer par d'autres moyens?
Oui, alors il y a pas mal d'alternatives qui existent, notamment, enfin, je peux prendre des exemples, les travaux d'intérêt généraux, qui est une des premières alternatives, qui a été créée par Badinter. Il y a aussi le bracelet électronique, qui est une alternative qui n'est pas extraordinaire. Enfin, c'est le bracelet électronique, donc une personne, on va lui placer un bracelet au niveau de la cheville, va se voir imposer des horaires de sortie de chez lui, peut-être un périmètre à respecter aussi, donc ne pas sortir d'un certain périmètre. Et ça peut être très très contraignant, et il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'ils sont enfermés à l'extérieur, du coup, parce que c'est une forme d'enfermement, en fait, le bracelet électronique également. Là, je prends un exemple, par exemple, d'un ancien détenu, qui a été placé sous bracelet à la sortie de sa prison, et qui s'est vu sanctionné à deux reprises parce qu'il a quitté son domicile, mais une fois pour aller à la poste parce qu'il avait une urgence. C'était dans le cadre de sa réinsertion pour trouver un emploi. Il fallait qu'il envoie un recommandé à son employeur assez rapidement pour la suite, pour ses démarches. Donc son bracelet a sonné, enfin l'alarme s'est déclenchée, parce qu'il y a une alarme qui se déclenche dans ces cas-là. Et cette personne s'est vue sanctionnée. Enfin, elle n'a pas pu bénéficier d'une permission de sortir pour aller voir sa famille le jour de son anniversaire. Donc, c'est sympa. Juste pour ça. Juste pour
parce qu'il est considéré en évasion, en fait.
Exactement, ouais. En pseudo-évasion, parce qu'ensuite, il est rentré chez lui avec une heure de retard. Mais donc, c'est pas on en parle souvent. Il y a beaucoup de gens qui se voient condamnés à du bracelet électronique ou qui se voient placer un bracelet électronique à leur sortie de prison, mais c'est pas une des meilleures alternatives. Ensuite, il y a le placement extérieur qui existe. Donc ce sont des personnes qui restent sous écrou et qui sont placées dans en descente. Je prends par exemple un exemple en Picardie, c'est dans un village qui s'appelle Moyen-Brie, où des personnes écrouées se retrouvent dans cet endroit, ont une chambre et plus une cellule, ont les clés de leur chambre, vont travailler la journée. Alors il y a pas mal, donc c'est une ferme. Donc du coup il y a pas mal de travaux agricoles. Alors ils peuvent cultiver des pommes de terre, des salsifis ou d'autres fruits et légumes, et sinon il y a ou avec les animaux. Je pense qu'ils choisissent entre l'agriculture et travailler avec les animaux. Et l'après-midi ensuite il y a tout un accompagnement qui est fait avec des travailleurs sociaux pour en vue de leur réinsertion. Donc ça, par exemple, ça c'est une alternative qui fonctionne, qui fait ses preuves, et il y a eu très peu de problèmes enregistrés par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de gardien, de surveillant, voilà.
Il y a beaucoup d'initiatives comme ça ?
Non, il y a très peu d'initiatives comme ça en France, malheureusement.
Et en France, est-ce qu'ailleurs, dans d'autres pays, ils pratiquent plus l'emprisonnement à l'extérieur, si on veut?
C'est une bonne question. Je suis désolé, je peux pas répondre à toutes les questions, mais étant arrivé il y a moins d'un an à l'OIP, je maîtrise pas encore tous les sujets. Désolé.
Et donc ça, c'est plutôt aussi des peines qui permettent aux détenus de pas avoir une sortie sèche, au final, et d'être suivi à la sortie de la prison. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place justement pour que ce type de détenus ne se retrouve pas dehors du jour au lendemain, sans boulot, sans logement, avec, 50 euros à la sortie de la tôle?
Malheureusement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a la plupart des détenus qui sont incarcérés pour de courtes peines sortent en sortie sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suivi derrière, ont des problèmes pour trouver un emploi, ont des problèmes pour trouver un logement. Ensuite, pour certains, je sais pas, ils vont pas avoir de famille ou ils vont avoir des difficultés à reprendre contact avec leur famille parce que leur famille a décidé de les chasser parce que ce sont des délinquants, entre guillemets. Et du coup, on constate pour ces personnes-là, en tout cas celles qui sont pas accompagnées, un taux de récidive qui est assez élevé, et se pose la question de l'intérêt de la prison pour toutes ces personnes-là, parce que ça ne fonctionne pas. C'est prouvé, les personnes qui ne sont pas du tout accompagnées vont plus avoir tendance à récidiver. Et Ensuite, oui, il y a des accompagnants qui existent. Il y a des mesures ensuite qui peuvent être ordonnées par les juges ou les personnes vont devoir aller voir un éducateur, un travailleur social ou le SPIP pour montrer les avancées, je sais pas, sur par exemple la recherche d'un emploi, d'une activité, d'une formation. Mais ça, ce sont des mesures qui sont ordonnées. Ça peut être vu comme une sanction aussi d'avoir ça. Il peut y avoir une demande de suivi de soins psychiatriques, etc. Enfin, je bafouille un peu, je suis désolé, mais c'est...
Non, ça s'entend pas, je te rassure. Okay,
mais ce que là, dans ce cas-là, comme ce dont on parlait en début d'émission pour l'accompagnement des familles, est-ce que il y a des associations, qui jouent ce rôle d'accompagnement parce qu'il n'est pas joué par ailleurs? Des associations qui ont certainement aussi des problèmes de subvention et du mal à vivre, est-ce que...
Oui, alors les anciens détenus peuvent se tourner vers des associations. Alors elles sont plus ou moins spécialisées. Il y en a certaines qui vont accompagner, celles que je connais en tout cas à Lyon, des personnes qui étaient dépendantes, par exemple aux drogues, ou des personnes qui ont contracté le VIH, etc. Donc ça va être des associations spécialisées. Ça, il y en a pas mal, je pense, de plus en plus. Ensuite, pour un détenu qui n'est pas confronté à ces problèmes, il en existe, mais pas assez aussi.
Alors, il nous reste quelques minutes avant de terminer. Est-ce que on pourrait parler rapidement des dernières campagnes que vous avez faites au sein de l'OIP, et notamment de la campagne « Ils sont nous ».
Oui, alors la campagne « Ils sont nous », c'est en fait l'OIP a travaillé avec des anciens détenus, donc a rencontré des personnes qui sont passées par la case prison. Et pour qu'ils témoignent de l'avant-prison, du passage à l'acte, pendant la prison et après la prison. Donc ce sont des personnes qui sont sorties il y a un certain temps. On essayait de prendre des personnes sorties au moins 6 mois après, enfin de les rencontrer au moins 6 mois après. Ces témoignages ont été diffusés sur un blog sur le site d'Euro 89 qui s'appelait Passer par la case prison, était également retranscrit dans notre revue Dedans Dehors, et il y a 8 témoignages qui ont été sélectionnés qui ont fait l'objet d'un ouvrage en fait qui s'appelle Passer par la case prison, qui est sorti en décembre 2014, donc tout récemment. Et en fait, ces personnes-là ont rencontré, ces 8 personnes ont rencontré 8 écrivains, et les écrivains ont tiré un récit, donc avec leurs plumes. Et donc l'ouvrage est constitué d'un récit de l'écrivain, du témoignage que l'OIP a recueilli, et de photos qu'un photographe, Philippe Castébon, a fait avec ces personnes-là.
Et qu'est-ce qui ressort de ces témoignages? Est-ce qu'elles ont des choses en commun, en fait, ces personnes, dans leur parcours, qui les a amenés un jour, en fait, à se retrouver en détention? Parce que ils sont nous, ça veut dire que finalement, ce passage en détention, ça pourrait nous arriver à tous.
Oui, c'est à peu près ça. Mais justement, il y a une certaine diversité, en fait, de témoignages. Il y a une femme. Le premier témoignage, par exemple, c'est une femme qui est atteinte par l'alcoolisme, qui a un niveau de vie qui est très faible, qui est illettré. Un autre, c'était l'adrénaline qui le poussait à faire des braquages qui avait une vie standard, et puis qui était spécialisé dans les alarmes et dans les installations d'alarmes, et puis qui a découvert qu'il pouvait faire des braquages très facilement, etc. Donc sinon, c'est divers et varié, et effectivement, ça peut arriver à tout le monde. C'était un peu l'objectif de cette campagne.
D'accord. Et en fait, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont retrouvés pris peut-être aussi dans un engrenage et qui n'ont pas réussi à s'en sortir, parce que tu nous parlais tout à l'heure des peines planchers. Ça veut dire que on commence à être condamné une fois, et puis on a un peu l'épée de Damoclès derrière, et puis la justice est pas laisse pas tellement sa chance au final aux gens.
Non, laisse pas tellement sa chance aux récidivistes aussi, du coup. Et alors que ce sont les personnes qu'il faudrait plus suivre, moins condamner, parce que quand on récidive, c'est-à-dire que la peine qui a été prononcée auparavant n'a pas fonctionné, donc on va pas reprononcer la même peine. C'est totalement débile de faire ça. Et je sais plus où je voulais en venir, mais
Sur la clémence de la justice, parce qu'au final, je pense que le discours qui est développé devant les juridictions, c'est bien de dire, bon voilà, le gars, il a commis des faits, il a été incarcéré, il récidive, on va le réincarcérer, mais c'est bien que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ce discours, il n'est pas entendu? Enfin, je veux dire, par les magistrats qui jugent, après, tu n'as peut-être pas la réponse, mais c'est une vraie question.
Oui, c'est une bonne question, mais c'est... Je ne sais pas si c'est en lien avec l'instrumentalisation politique, par exemple, de certains faits divers. Souvent, les lois les plus répressives, notamment sous l'ère Sarkozy, ont été prises au lendemain de gros faits divers. Je ne sais pas, la petite Laetitia Pornic, Michel Fourniret, etc. Et on se retrouve avec des peines planchées, des rétentions de sûreté, toutes ces peines-là qui ont été prises sur le coup de l'émotion, en fait. Et c'est, je pense que c'est en lien avec ça.
Est-ce que dans ces témoignages, il y a aussi comment le séjour en prison a affecté ces personnes?
Oui, donc il y a une partie du témoignage qui parle du séjour en prison. Et là, il y a une chose qui est commune à toutes ces personnes dans leurs différences, au final, qui est la désocialisation, la perte de repères, de sens, la haine aussi qu'on peut avoir envers l'institution carcérale ou même envers l'État, parce que ça peut générer de la haine, la prison, et une certaine frustration.
Est-ce que au final la prison idéale peut exister, ou est-ce que il faudrait clairement abolir les prisons? Rapidement, c'est peut-être un débat un peu plus... En trois minutes, ça va être...
Donc, pour parler au nom de l'OIP, il faudrait réduire le nombre de prisons, réduire l'échelle des peines, ne plus avoir de perpétuité, ne plus avoir de longues peines, et favoriser les alternatives à l'incarcération. Donc, essayer d'avoir le moins d'incarcération possible. Dans les statuts de l'OIP, c'est écrit que la prison est par essence une atteinte à la dignité de la personne. L'enfermement est une atteinte à la dignité de la personne. Ensuite, personnellement, moi, je ne sais pas s'il peut y avoir de prison idéale, mais ce que je constate, c'est que dans la grande majorité des cas, la prison est un échec. Donc, il faudrait trouver autre chose. Ensuite, je suis pas un grand spécialiste en la matière pour pouvoir proposer autre chose, mais face à un échec, il faudrait réfléchir très sérieusement à quelque chose d'autre.
Parce que la prison n'a pas toujours existé. Donc, on n'a pas toujours enfermé les gens. Enfin, c'est pas toujours une peine qui a été systématique, parce que le problème, c'est que c'est devenu une peine systématique aussi. Je ne sais pas s'il existe d'autres exemples, en fait, dans d'autres pays de peines qui sont pas des peines de prison, mais qui fonctionnent.
Oui, il y a toute la question du sens de la peine, quelque chose auquel je n'avais pas pensé et que j'ai constaté récemment, c'est que dans le mot peine, il y a pénible. Et est-ce qu'il faut que ce soit pénible, en fait, la prison? Est-ce qu'il faut que ce soit une peine, en fait? Est-ce que quand quelqu'un commet une faute, il faut que qu'il souffre, ou au contraire, est-ce qu'il faut lui faire comprendre qu'il a commis une faute et qu'il ne doit plus réitérer? Donc la question de la peine aussi et du sens de la peine se pose.
Surtout que la diversité des fautes amène toujours à la même... Enfin, l'emprisonnement, c'est toujours la même peine, quoi. Donc,
exactement, oui.
Est-ce que c'est la solution pour tout?
Mais en fait, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de peine de probation. Par exemple, il n'y a pas de... Les délits ne... Quand on commet un délit, on peut pas encourir une peine de probation comme peine maximale. Ça va être la prison. Le juge pourra prononcer une peine de probation. Donc, la probation, c'est une peine alternative ou un aménagement ou quoi que ce soit. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais il faudrait, oui, qu'il y ait une alternative à la prison dans la justice française.
On vous réinvitera pour parler de tout ça une prochaine fois, parce que c'est vrai que le sujet est vaste et les débats peuvent durer longtemps. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous.
Et on vous laisse avec le Canu Info. Je vous promets de...